J'ai 11h15. J'essaie de faire vite, mais je ne suis pas sûre que mes gènes me permettent d'aller vite. Donc... Waouh! Bon, c'est déjà bien rempli. Comment on va remplir la suite? Ce qui m'a motivée ce matin pour apporter cette méditation, c'est quelqu'un à qui je posais la question il y a quelque temps. Es-tu baptisé du Saint-Esprit? Puis il m'a dit, j'en ai entendu parler, mais en dehors du cadre de l'Église, en fait, non, je ne sais pas ce que c'est très bien. Et ça m'a étonnée, parce que dans ma tête, je me suis dit, mais pour nous ici, c'est quelque chose de clair. Eh bien non, j'ai dû faire le constat. Un peu comme pour le peuple d'Israël, il y avait besoin d'un Deutéronome, d'un rappel des choses de base. Et je me suis dit, plutôt que s'axer uniquement sur le baptême du Saint-Esprit, je me suis dit, on va faire une révision aujourd'hui. Révision des basiques, tout simple. Dire que ça a été déjà tellement chargé que ça fera pas de mal de reprendre les choses de base. Alors il va y avoir plusieurs étapes et on va prendre la toute première dans Genèse 1, 26-27. Puis Dieu dit... Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine, voilà. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alors, verset 26, puis Dieu dit, faisons. Le mot hébreu pour Dieu, Elohim est un mot pluriel. Et faisons, première formule du pluriel. Donc, dans les premiers textes de la Genèse, on découvre que ce Dieu-là est un Dieu trinitaire. À notre ressemblance. C'est pas ma ressemblance. C'est à notre ressemblance. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et voilà, ça va être un petit peu le fil conducteur de notre rappel des choses de base. C'est cette ressemblance à notre Dieu. La pensée de ce Dieu trinitaire est tout au long de l'Écriture que l'homme et la femme soient à sa ressemblance, à son image. Et c'est ce qui était au début dans le jardin d'Éden. Et dans ce beau jardin, Dieu a dit, vous avez le droit de manger de tout, sauf d'un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors qu'à côté de cet arbre, il y avait l'arbre de la vie. Et il y a eu un accroc dans le plan. Clac, un accident sur la route, boum. Voilà qu'Adam et Ève ont mangé la pomme. Vous savez tous que c'était une pomme, bien sûr. En fait, il n'y a jamais quelque chose qui nous a prouvé que c'était une pomme, mais c'était un fruit. Mais en tout cas, ils ont mangé de cet arbre-là, et Dieu avait dit, si vous en mangez, vous mourrez. Alors, en fait, là aussi, pour suivre ce chemin, ce fil conducteur de la ressemblance à Dieu, Je me suis dit, on s'arrête tellement souvent sur cette pomme, ou sur la désobéissance, et puis la punition, bam, t'as désobéi, bam. Je me suis dit, il y a peut-être un autre regard que l'on peut avoir sur ce passage, sur cet événement, et qui touche justement à cette ressemblance de Dieu. Nous avons été créés à leur image, et un aspect de cette ressemblance, c'est le libre arbitre. Dieu a placé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Et il leur a dit, voilà, vous n'avez pas le droit de manger de cet arbre. Mais vous avez le droit à tout le reste. Et en fait, Adam et Ève ont choisi librement, même si Ève a été tentée, on a toujours la capacité de dire non à la tentation. Je crois que le libre arbitre est un élément fondamental de la personne de notre Dieu. Parce que lui aussi, avant tout, il est libre de choisir. Il a choisi de nous aimer. Il a choisi de faire alliance avec nous. Il a choisi plein d'autres choses. On peut en parler pendant des... Et je crois que ce libre arbitre est aussi fait partie de cette ressemblance à Dieu qui est la capacité de l'être humain d'être, de choisir son chemin. Dans Deutéronome 30, 19, voilà. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. On est devant le choix. Nous avons ce libre arbitre de choisir le chemin que nous voulons emprunter. Et je crois que c'est une des choses contre lesquelles l'ennemi de Dieu et de nos âmes lutte terriblement au travers de toutes les dictatures, au travers de toutes les philosophies intransigeantes qu'on veut nous imposer, voire des religions, pour empêcher la personne de vivre cette dimension-là qui reflète l'image de Dieu. Choisis, en fait, d'aimer l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et nos amis Adam et Ève ont librement choisi de ne pas aller dans ce chemin-là. Et ils sont morts. Alors vous me direz, mais non, ils ne sont pas morts. Boum, plus rien. Parce que dans la pensée hébraïque et dans la pensée de Dieu, être mort, c'est avant tout être séparé de Dieu. Et c'est pour ça que Adam et Ève ont été mis à l'extérieur du jardin d'Éden, entre autres. On pourrait dire beaucoup d'autres choses, mais on va aller plus vite. Ils sont sortis, ils ont été séparés, la porte du jardin d'Éden a été fermée, et ils n'ont plus été en communion avec leur Créateur. Et il en va de même pour nous. Le beau miroir que Dieu avait créé s'est brisé. Mais Dieu avait un plan B. Et ce plan B, il nous en parle aussi dans Genèse, Genèse 3, 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Tout au début de Genèse, Dieu annonce déjà que Christ sera blessé au talon, mais qu'il écrasera la tête de Satan. Au travers de son sacrifice à la croix, parce que Jésus-Christ savait qu'il a été envoyé sur terre, entre autres, pour aller sacrifier sa vie, mourir pour nous sauver, pour rétablir cette communion avec le Père, pour vaincre le péché et Satan, pour rester 3 jours dans la tombe et ressusciter au bout de 3 jours. Et ça, c'est l'élément central de l'humanité. Jésus-Christ a choisi, par amour pour nous, d'aller mourir à la croix. Et à la croix, ce n'est pas la mort qui l'a fait mourir. Jésus-Christ est Dieu, il n'est pas mort de mort naturelle, comme nous, parce qu'il n'est pas pécheur. Il a livré sa vie à la mort. Il a choisi de mourir pour que, à notre ressemblance, nous puissions, nous, vivre quelque chose qui s'appelle la mort et la nouvelle naissance. Mourir à nous-mêmes pour renaître à une vie nouvelle. Et ça, c'est la troisième étape, naître de nouveau. Et comme Nicodème disait, mais enfin, maître, comment je vais faire pour retourner dans le ventre de ma mère? Enfin, quoi, quand même? Alors, allô, hein? Comme dirait quelqu'un de connu. Et le Seigneur dit lui-même dans Jean 3, 5 à 7, je ne sais pas, oui, si on peut le mettre. En vérité, je te le dis, si un homme et une femme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et ça, cet extraordinaire plan B de Dieu, c'est de faire de nous de nouvelles créations. Cette nature qui est en nous et qu'on a héritée de tous nos ancêtres, notre nature de pécheurs, c'est-à-dire d'hommes et de femmes qui invariablement choisissons d'aller manger la pomme, hein, pour que les choses changent, il faut un miracle. Et ce miracle, il est à l'image, là encore, à la ressemblance de Jésus. Jésus-Christ est né de la chair. Il est né de Marie. Hein? Et il est né de l'Esprit-Saint. C'est un miracle. C'est pour ça qu'il est Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous offre quand on est pécheur, qu'on se repent, comme on l'a entendu aujourd'hui? Eh bien, Dieu nous offre non pas de rapiécer les choses qui ont été abîmées, puisqu'il nous dit dans une parabole qu'on ne peut pas coudre un tissu neuf avec un tissu tout vieux qui se déchire, ou qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres, sinon les outres vont éclater. On ne peut pas mettre une vie nouvelle dans quelque chose qui ne va pas tenir, qui est déjà cassé. Donc Dieu va faire un miracle en nous, qui est cette nouvelle naissance. Une nouvelle création, que nous dit Paul. C'est fort, hein? Et c'est une espérance extraordinaire, je trouve. C'est un vrai miracle. Et comment ce miracle peut-il se faire? On va lire Jean 3, 14 à 19. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ah ouais. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et les suivants. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est ça le péché, la définition du péché. C'est de croire ou ne pas croire au nom du Fils unique de Dieu. Avec un jugement, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les hommes ont préféré. On est de nouveau sur ce fil conducteur de notre libre arbitre. J'ai le choix, comme on a entendu ce matin, de dire oui avec un chemin de vie, et j'ai le choix de dire non avec les conséquences. Mais je suis libre, libre de choisir, parce que ma liberté, mon libre arbitre, est le propre de l'identité même de notre Dieu. Et il respectera toujours cette chose-là. J'ai pour habitude de dire, Dieu ne contraint pas, il convainc. Et moi, j'aime bien être convaincue, parce que ça veut dire que, bon, avec ma raison, j'ai réfléchi, avec mes émotions, ma volonté, ça fait participer tout mon être pour que, à un moment donné, je puisse dire, ok, j'ai compris, je suis sûre, c'est là que je dois aller.
Amen.
Choisir. Et en fait, la pensée de Dieu, en nous faisant naître de nouveau, devenir une nouvelle création, on peut lire ça dans 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous avons effectivement là un miroir qui n'est pas cassé. C'est l'image de Jésus-Christ. Et son objectif pour nos vies est de nous transformer petit à petit, de gloire en gloire, à cette image-là, pour cette ressemblance avec le Créateur. Et je pense que dans ce projet que Dieu a pour nous, on peut dire, et ça peut nous aider à vivre toutes nos difficultés. Toutes nos difficultés, nos joies, nos peines sont là et contribuent. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller chercher les difficultés ou les choses dures. Ces difficultés contribuent à nous transformer de gloire en gloire à l'œuvre. Et ça donne du sens à tout ce que l'on vit. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus sur la nouvelle naissance. Lisez Jean 3 et puis vous aurez toutes les explications plus longues. On va poursuivre. Donc après la création de l'homme, après le péché, hein, ce miroir cassé, ce plan B avec la nouvelle naissance qui a tout son sens parce que Christ est mort à la croix et il est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu ce péché et cette mort, et Satan. Eh bien, Dieu nous entraîne dans un autre chemin, qui est le baptême d'eau. Matthieu 3, 15. C'est Jésus, après 30 ans de vie sur terre, à être charpentier avec sa famille. À 12 ans, il s'occupait déjà des affaires de son père dans le temple, comme il dit. Voilà qu'il était temps qu'il aille vers Jean-Baptiste, qui lui pratiquait le baptême de repentance. Jésus vient et il veut prendre le baptême d'eau, donc par immersion, puisque le mot baptiser en grec veut dire immerger, plonger. Et Jean-Baptiste lui dit, mais non, t'es pas juste. C'est l'inverse. c'est toi qui dois me baptiser, c'est pas moi qui dois te baptiser. Et là encore, Jésus, comme modèle, nous met là aussi dans ce miroir de ressemblance. Il dit « Laissez faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Je crois que c'est la définition du baptême. L'engagement d'accomplir ce qui est juste. J'ai vécu cette nouvelle naissance, cette repentance. J'ai fait le choix de tourner mes skis, de changer de direction, de suivre Jésus. Je crois que c'est l'engagement d'accomplir tout ce qui est juste. L'apôtre Paul nous dit, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Oh, c'est pas l'engagement d'être parfait, hein, parce que soyez assurés, personne n'y arrive. Donc Dieu ne nous demande pas d'être parfait, il nous demande de faire ce qui est juste. Et c'est en lisant l'Écriture et en apprenant à connaître le Seigneur qu'on fait petit à petit ce qui est juste, parce qu'on découvre ce qui est juste, non pas à mes yeux, à moi, mais à ses yeux, à lui. C'était, voilà, ce baptême que Dieu nous demande, c'est l'engagement de faire ce qui est juste aux yeux de Jésus-Christ. Et pendant que Jésus se faisait baptiser, dès qu'il sort de l'eau, voilà que l'Esprit vient sur lui en forme de colombe et il est baptisé du Saint-Esprit. Hein, on peut lire. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Que se passe-t-il à ce moment-là? Alors, comment comprendre? Parce que Jésus, il est né de Marie, il est né du Saint-Esprit. Pourquoi l'Esprit-Saint descend encore sur lui? Je dis nous, on est né de nos parents, de la chair. On est né de nouveau pour ceux qui ont accepté de suivre Jésus-Christ. Donc on est né du Saint-Esprit, on a vécu ce miracle. Et on devrait vivre la même chose que Jésus, puisqu'il est notre modèle. Cet événement-là s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Alors, pourquoi devrions-nous le vivre? Et je pense que là aussi, Jésus est ce modèle. Pendant 30 ans, il a vécu une vie juste, une vie droite, une vie intègre, puisqu'il était né du Saint-Esprit, il est né du Saint-Esprit. Et à un moment donné, lui, qui est Dieu, a eu besoin de recevoir la puissance du Saint-Esprit. C'est donc qu'il y a une raison extrêmement valable à cet événement-là. Et on peut lire juste après dans Luc 4, 1 et 14 que Jésus rempli du Saint-Esprit, est-ce qu'il ne l'était pas avant? En tout cas là, il est écrit rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit. Donc voilà, il y a un mouvement, il y a une direction qui est imposée à Jésus. Et au verset 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Pourtant, il est né de l'Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, à ce moment-là, il y a eu le temps de Dieu pour créer l'Église. et pour la vivre. Et je crois que pour nos vies, à nous, Dieu nous demande de vivre la même chose. Alors, le baptême d'eau, le baptême dans le Saint-Esprit, est-ce que c'est chronologique? Personnellement, j'ai fait le contraire, j'ai vécu le contraire. Je me suis convertie un matin, et le soir, je suis retournée à cette réunion, et là, l'évangéliste nous a appelé tous ceux qui nous étions convertis pendant la semaine, et il nous a imposé les mains, et là, il s'est passé quelque chose de bizarre. J'ai eu des langues bizarres qui sont venues, une langue que je ne connaissais pas. J'ai eu peur parce que jamais personne ne m'avait dit quoi que ce soit. Juste la veille, j'avais entendu quelque chose d'extraordinaire. J'avais entendu des gens qui étaient là dans cette salle qui chantaient en langue. Waouh, c'était le ciel sur la terre. J'avais jamais entendu quelque chose d'aussi beau. Mais le lendemain soir, je ne savais pas de quoi il s'agissait. On m'en avait jamais parlé. J'étais pas informée, donc tout ça était très très bizarre. Et puis les personnes qui m'ont enseigné l'évangile pendant des mois et qui m'ont accompagnée étaient des personnes qui venaient d'un milieu qui était opposé au baptême du Saint-Esprit. Donc j'ai entendu des paroles contre. Et ça a été du poison dans ma vie parce que moi j'ai besoin, là encore, avant de choisir, il faut que je puisse réfléchir, que ce soit béton avant de... J'ai mis plus de 3 ans, il a fallu que je sois au collège biblique. Un jour, j'en pouvais tellement plus que j'ai dit, Seigneur, je vais au cours à 14 heures. Si en sortant à 3h moins quart, tu ne m'as pas convaincu que c'est juste, ça veut dire que qu'on m'enseigne une fausse doctrine, je fais mes valises, je m'en vais. Ben ouais, hein. Je ne sais pas si le Seigneur m'a donné la conviction parce qu'il avait des projets ensemble, mais je suis allée à ce cours et c'est vrai que là, c'est devenu vraiment une révélation pour moi. Ça m'a sauté aux yeux. Mais oui, que si Jésus était né de chair et d'esprit, qu'il a eu besoin de cet événement du baptême du Saint-Esprit, à combien plus forte raison nous avons vivre la même chose selon ce modèle et ce que lui, il a vécu. Alors j'ai été confortée dans mon cœur et puis j'ai dit, bon, plus de doute, clac, je suis au bon endroit, j'y reste. Et heureusement... Alors... Voilà, je ne vais pas aller plus loin sur le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une leçon à ce sujet-là. Nous pouvons voir qu'une fois que Jésus est monté au ciel, il avait promis qu'il enverrait le Consolateur. Et on sait que le jour de la Pentecôte, des milliers de personnes ont été baptisées du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et en fait, s'accomplissait la prophétie de Joël, qui disait, tout esprit, mon esprit sur toute chair, ils prophétiseront, ils auront des visions, ils auront des songes. Et les versets Actes 2, 37 à 39, où des gens, ils disent, que faire? Repentez-vous, croyez en Jésus, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, je crois que là aussi, on est éminemment dans une expérience, dans un fait important de nos vies qui est à l'image, à la ressemblance, à ce modèle qu'est Jésus-Christ. Et je crois que c'est une question sérieuse que l'on peut se poser. Je crois que nous sommes tous appelés à recevoir la puissance du Saint-Esprit. Si nous appartenons, si nous sommes nés de nouveau, nés de l'Esprit, nous sommes tous appelés à le vivre, et si quelqu'un ne l'a pas encore vécu, alors cherchez cette chose-là. Je suis convaincue que Dieu vous le donnera, parce que c'est la volonté de Dieu d'être revêtu de cette puissance. Et alors vous me direz pourquoi, à quoi ça sert? À me trouver bien chez moi, dans ma chambre, dans mon logement. On va lire Éphésiens 1, 20 à 23. Je vais lire comme ça, j'ai de la peine à lire. Je vais prendre dans ma Bible parce que c'est trop loin, c'est trop petit. Alors Éphésiens, c'est une épître extraordinaire qui nous parle de tout ça. Alors Éphésiens 1, 20 à 23. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Voilà une des priorités du baptême du Saint-Esprit. Ça a été de faire de Christ ce chef, cette tête de ce corps qu'est l'Église. Et l'Église, alors c'est quoi? Dans Éphésiens, il nous est dit en substance qu'au travers de la mort de Jésus, Jésus a eu la volonté de sa mort et sa résurrection de réunir en lui les Juifs au bénéfice des promesses que Dieu avait données à ce peuple et les païens, et d'enlever le mur d'inimitié qui les séparait. Christ est le rassembleur des Juifs et des non-Juifs. Il nous édifie pour être une habitation de Dieu en esprit. Jésus avait dit, ce temple sera détruit et je peux le reconstruire en 3 jours. Christ, ce corps de Christ, est le temple de Dieu, le nouveau temple de Dieu. Éphésiens 2, 6, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, de témoigner au monde de cette richesse de la grâce de Dieu. Et pour finir, en Christ, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ce portail fermé du Jardin d'Éden s'est réouvert en Jésus-Christ. Alors, ça, c'est les objectifs, les pensées. Et quels sont les moyens par lesquels Dieu nous conduit dans ces choses-là? Ce corps, je pense en tout cas, je vais vous apporter en tout cas ma pensée en tant qu'infirmière aussi de ce qu'est un corps. On parle des ministères. Pour moi, les 5 ministères, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, c'est comme les os de notre corps. S'il n'y avait pas d'ossature à notre corps, ce serait un amas de tissu mou. Ce qui fait de nous un corps, c'est les os, c'est ossature. Et pour moi, ces 5 ministères représentent l'ossature de ce corps. Et quelque chose sur lequel il faut être vigilant, je reçois entre autres ta prophétie. Un étudiant en médecine me disait, oui, mais les os, on ne les voit pas. Voilà, vous avez tous compris. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il donne aussi? Il donne des dons surnaturels. Les 9 dons spirituels, les 3 dons de révélation, 3 dons de parole et les 3 dons de puissance qui manifestent la puissance de Dieu. et que Jésus-Christ a manifesté. Et l'Esprit Saint donne aussi le fruit. Hein, nous avons l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Tout cela constitue le temple, ce corps de Dieu dans lequel nous avons chacun notre place, avec la responsabilité de chercher quelle est ma place et quels sont mes dons. Le Saint-Esprit aussi vivifie, purifie tous les dons naturels qu'il m'a donnés. Parce que si je les ai, ça vient aussi de Dieu et il est là aussi pour les utiliser. Dans la mesure où je les lui donne, hein, pour qu'il les sanctifie, qu'il les purifie. Et je crois que tout ce corps, comme il est dit, on n'a pas trop de temps pour dire autrement, mais tout ce corps est là pour manifester cette richesse de Dieu sur terre. Et s'il y a un verset que je voudrais aussi vous laisser, c'est aussi dans Éphésiens 1, 17, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Je crois qu'il est important d'avoir cette vision de l'Église, de la connaître, mais je pense qu'il faut que ça aille au-delà d'une connaissance intellectuelle ou théologique. Il faut que ça entre dans quelque chose qui est de l'ordre de la révélation. Hein? Comme voilà, une révélation, c'est pas quelque chose de nouveau qu'on trouve pas dans l'écriture, c'est tout d'un coup ces textes, cette vision qui prend vie et qui vient être scellée au fond de nos cœurs, et une fois que c'est là, ça n'en bouge plus. Donc je prie vraiment pour que non seulement vous puissiez connaître intellectuellement ces choses par la lecture, mais que cela devienne parole vivante en vous. C'est comme ça que Dieu nous dit qu'on n'est plus des enfants amenés à tout vent de doctrine. Et à ce sujet, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Effectivement, cette Église, ce corps de Christ, certains l'appellent le royaume de Dieu, en tout cas une partie du royaume de Dieu. Et là, je suis dans la notion d'avertissement, n'est pas appelé à régner sur terre. Je dis ça parce qu'il y a une fausse doctrine qui s'infiltre dans tous les milieux chrétiens, qui s'appelle le dominionnisme. Et c'est un cher ami à M. Trump qui l'a mise en place. L'Église n'est pas appelée à prendre le contrôle des royaumes de cette terre. Je ferme la parenthèse. Soyez vigilants aujourd'hui. Vraiment, ça s'infiltre partout, avec subtilité. Je vais faire rapide pour la fin. Pourquoi l'Église ? Alors, est-ce que c'est juste pour être témoin ? Alors, juste, c'est pas juste, mais c'est déjà pour être témoin de Christ sur terre. Mais je crois que la pensée de Dieu, c'est d'aller aussi plus loin, c'est de faire de nous un peuple, une épouse. Nous sommes la fiancée de Dieu, que Dieu veut sanctifier, parce que son appel suprême, c'est d'avoir un peuple saint qui serve un Dieu saint. Amen. Et nous savons que nous sommes appelés à la sainteté, sans laquelle nul ne verra Dieu, le Père. Donc, ce projet de Dieu, il est pour être témoin sur terre, par la puissance de l'Esprit Saint, mais aussi être préparé par ce même Esprit à partir là-en haut, vers lui, et à vivre éternellement dans la Jérusalem céleste. Et là, je ne sais pas comment, je lis, mais je trouve que c'est tellement incroyable que j'ai de la peine. Je suis encore avec beaucoup mes deux pieds sur terre. Mais voilà le projet de Dieu, je dirais ce plan B, parce que le miroir a été cassé, est un projet extraordinaire, à la fois individuellement pour nos vies et collectivement pour tous ceux qui appartiennent au corps de Christ. Alors, que cela puisse nous encourager à persévérer. Quelques petites étapes, hein, la création, le péché, le salut par la croix en Jésus-Christ, la nouvelle naissance, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, l'Église et l'épouse dans un repas ensemble. Où ce sera, je sais, voilà, lisez vous-même.